Bonjour à tout le monde, je salue ceux que je ne connais pas d'abord et quelques-uns que je connais, puisque le beau-père qui est là-bas m'a dit que j'avais l'honneur de lui imposer les mains le jour de son diaconat. Bon, on vient avec les équipes Notre-Dame. Bah, je suis né dedans parce que mes parents, quand on était petits, ils habitaient au Maroc, ils ont créé un beau-père Caffarel en Jordanie pour nous aider à fonder les équipes Notre-Dame au Maroc. Et Caffarel a répondu « Débrouillez-vous ».
Ils l'ont fait d'ailleurs, il y a plein d'autres qui sont montés.
Plusieurs fois je suis allé le voir à Troussure avec des copains de séminaire, des copains de prêtres. Et puis après j'ai eu une chance énorme, c'est qu'il était lyonnais Caffarel. Il est né en 1903 je crois, et il est mort en 96. Et c'est un secrétaire pendant 20 et 30 ans. Après sa mort, a décidé d'entrer chez les Sœurs de Bethléem, mais ça n'a pas marché. Et donc, moi, je suis devenu évêque, elle était libre. Ce qui fait que Daniel Vaguet, c'est ma secrétaire depuis 25 ans. Et c'est un très, très beau cadeau, bien sûr, parce que tout le temps, elle me dit, la Caffarel disait que oh, je vais vous trouver ça, ou il a écrit un beau texte comme ci, ou etc. Et elle trouvait toutes les références et tout, donc ça m'a entretenu, si vous voulez, dans cette familiarité d'origine. Ensuite, j'ai été nommé l'équipe Notre-Dame, donc avec les parents d'Aurélie. Quand je venais à peine de devenir prêtre à Vincennes, alors on voyait arriver les petits bébés. Et 40 ans plus tard, je n'ai plus jamais fait de l'équipe Notre-Dame. Et maintenant que je suis retiré, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, émérite, à Rennes, on m'a proposé de rentrer dans une équipe Notre-Dame. Et je suis l'aumônier d'une équipe, mais c'est des gens de mon âge. C'est des... Alors, on vient d'avoir notre 15e petit-fils. c'est vraiment des beaux cadeaux du bon Dieu, quoi, voilà. Alors, il y a deux thèmes qu'on m'a proposés, un sur l'espérance. Titre choisi pour parler de la politique, c'est assez intéressant. On a choisi le concept d'espérance pour faire cette petite déclaration, qui est une citation de l'Écriture, hein. C'est une citation de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, d'ailleurs, le mieux, ce serait de la lire. Cet après-midi sur donc le synode, la synodalité, parce que voilà, c'est un désir explicite du pape, c'est-à-dire que le synode n'est plus seulement un synode des évêques, mais il veut un travail synodal à l'intérieur de toute l'Église. Le concept d'espérance dans l'Écriture,
bon ben, je lis ce passage, hein, donc on est dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Sur ce qu'est la justification. Justification du kaiosyné, ça veut dire la sanctification. Le juste, le tzaddik, chez les juifs, un tzaddik, c'est un saint, quoi. Donc un juste. Alors, ayant donc reçu notre justification par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Il s'agit de ton baptême, de la vie spirituelle. Donc c'est le Christ qui t'a donné accès de vivre dans la... En fait, la grâce, c'est la vie de Dieu, quoi. Donc j'ai reçu cette vie de Dieu qui est comme une renaissance au jour de mon baptême. Et là, il dit, j'y ai eu accès et j'y suis établi. C'est très, très beau. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a maintenant, je sais que c'est mon avenir, qu'il est parti me préparer une place à la maison... Je m'en vais pour vous préparer une place. Les apôtres sont furieux, quoi. Pourquoi tu pars? Tu ferais bien mieux de rester. Enfin, en fait, quand il s'en va, il reste. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc n'ayez pas peur. Donc il part pour vous préparer une place, mais il reste avec vous. Et donc cette espérance, c'est la gloire, c'est-à-dire, est-ce que ça m'intéresse? Vous voyez, regardez le credo, comment il est fait. Je crois en Dieu le Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, etc. Et à la fin, expecto, j'attends. Il ne faudrait pas se mettre un donc. Souvent, le credo, il est récité comme la liste des vérités que nous croyons, ce qui n'est pas faux. Mais il n'a pas son tonus, son dynamisme spirituel. Tous ces « je crois » te mettent dans une attitude d'attente ardente. Est-ce que toi, vraiment, tu attends la vie éternelle? Est-ce que cette vie éternelle, tu vas la recevoir, tu la renouvelles justement en mangeant l'Eucharistie, en lisant l'Évangile, en recevant pardon des péchés, etc. Parce que tu l'as reçu le jour de ton baptême? Et donc, c'est ça qui est ma plus grande espérance, ma plus grande attente. Voilà.
Je ne sais pas si on entend la force de ce mot dans le credo. Nous nous glorifions encore des tribulations, thlipsis en grec. C'est un mot très fréquent sous la plume de Paul. On peut dire qu'il n'en a pas vu d'ailleurs, lui. Alors, il y a un moment dans la seconde aux Corinthiens, il est drôle. Il dit, mais je m'en fous, moi, toutes ces petites... Pourtant, il a quand même été en prison, flagellé et tout, comme c'est quand il raconte tout ça. Toutes ces tribulations, par rapport à ça, c'est 2 Corinthiens 3, 17, je crois. Par rapport à la masse éternelle de gloire qui m'attend. Ah bon, masse éternelle de gloire. Alors, je vous pose cette question. Vous voyez déjà, comme ça, la masse éternelle de gloire. C'est étrange comme formule, hein. On voit qu'il est vraiment habité, quoi, par cette lumière à venir, d'une certaine manière déjà présente. C'est ça qui nourrit son espérance. Ce qui nourrit mon espérance, c'est en fait qu'il y a dans le royaume une lumière incroyable. On va voir cet après-midi, là, dans l'évangile de la transfiguration, apparaître sur le visage de Jésus. Ils sont un peu perdus, les pauvres, vous savez, dans les icônes de la transfiguration. Vous voyez mon pauvre petit Saint-Pierre, il a les quatre fers en l'air, là. Il ne sait plus trop ce qu'il est, il ne sait plus trop ce qu'il dit, etc. C'est assez beau parce que l'arrivée, la manifestation de la lumière de Dieu dans le visage de Jésus, il en est complètement bouleversé, quoi. Donc, sachant bien que la tribulation que je vis maintenant, la gloire vers la gloire, en fait, elle me fait aussi du bien. Je serais content si j'en avais moins, ce n'est pas qu'il la cherche, évidemment. Mais elle produit la constance. Constance, persévérance, hypomonée en grec. Ce qui fait du grec, c'est intéressant de voir ce mot hypomonée. Hypo, ça veut dire hypo, dessous. Et monnaie, demeurée. C'est-à-dire, il faut que je reste là en dessous. Donc, quand des quantités d'épreuves viennent, ben, il ne faut pas que je m'en aille pour que les autres les prennent en pleine figure. C'est à moi de les prendre. Et en fait, je sais que je suis sous la parole de Dieu. Et que jamais elle ne me laissera. Donc, quand les circonstances sont rudes, défavorables, etc., au lieu de désespérer, je reste là, je reste en dessous, je supporte comme je peux. Hypomonète et selpidos, je vais rester en dessous, humblement, sans me carapater, sous cette épreuve, parce que je pense qu'elle va être une ouverture du royaume pour moi, pour d'autres, etc., etc. Donc, je fais un acte de foi et un acte d'espérance. Alors, ça nous donne la constance. La constance nous donne une vertu éprouvée, d'occuber, ou peu importe le mot. Et après, c'est cette vertu éprouvée qui va fortifier mon espérance. Donc l'espérance, c'est ça qui va me permettre longtemps. Et c'est là que vient la citation. Je voulais vous la dire dans ce contexte. Et donc il dit ensuite, et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Nous étions sans force. Mais quand le Christ est venu, dans la victoire que Dieu a montrée au Christ, alors il nous a montré cette lumière, et cette espérance, moi je dois la garder. Je pourrais vous poser cette question, vous voyez, quelle est la caractéristique? Vous connaissez les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Ça change parfois, c'est la foi, la charité, l'espérance. La foi, c'est toujours la première. La foi, la porte de la foi. Quand le pape Benoît XVI a voulu nous faire une année de la foi, il a cité les actes des apôtres 14-27, quand Paul arrive et il explique, bah, je me suis allé me balader chez les Romains et tout ça, et je vais vous raconter comment Dieu leur a ouvert la porte de la foi. En Grèce, en Anatolie, etc. Non, il n'est pas encore allé en Grèce, c'était seulement en Anatolie à ce moment-là. La porte de la foi, c'est toujours premier. La charité et l'espérance, pourquoi ça bouge? Eh bien, parce que la charité, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, tu dois aimer ceux qui sont avec toi, etc., etc. Et l'espérance, c'est à la fin du parcours. Donc, tu sais là-bas que tu as une place qui t'a été préparée par Jésus, etc. Mais parfois, c'est en sens inverse. C'est l'espérance d'abord et la charité après. Pourquoi? Parce que quand tu avances, eh bien, tu arriveras et tu auras le courage de dépasser les difficultés si tu sais que tu vas vers le royaume et que si tu sais que tu as une place à haut et si, que ça ne te décevra jamais, que l'espérance ne te déçoit pas. Et la charité en dernier, là on sait bien pourquoi aussi. Parce qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. On sait bien qu'à la fin de ma vie, le bon Dieu ne va pas me demander combien il y a mon compte en banque, si j'ai eu des diplômes, quelle était ma carrière. Quand je suis arrivé, il me dit, alors, petit Philippe, il y en a eu de l'amour dans cette vie?
Pas assez. Enfin, heureusement, tu m'en as donné pas mal, mes parents aussi, plein de gens aussi. Enfin,
c'est la seule question qui compte au soir de notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage de Jean de la Croix, à la tarde, te examinarás en el amor. Mais il y a une différence dans le texte espagnol, et c'est soit te examinarán, soit te examinarás. Ce qui veut dire, le soir, il n'y a pas de l'avenir. À la tarde, le soir. On t'examinera sur ton amour. C'est-à-dire la valeur de ta vie au soir de ta vie, ce sera, il y a eu de l'amour là-dedans. Nous, on ne répondra tous pas assez, bon. Mais quand même, il y en a eu parce qu'on en a beaucoup reçu. Bon, après, peut-être qu'on n'en a pas assez donné, c'est sûr. Bon. Mais si au lieu du N, il y a un petit S, excusez-moi si c'est trop technique, à la tarde, le soir, tu examineras en el amor, c'est-à-dire chaque soir, tu feras ton examen sur l'amour. Ça, c'est beau. Apprendre l'examen de conscience, non pas avec ce que j'ai fait comme péché aujourd'hui et tout, chaque soir, je me dis, alors Seigneur, dans cette journée qui s'achève, il y en a eu de l'amour? C'est bien. Parce que si je me pose cette question à chaque soir de ma vie, au soir de ma vie, je sais que c'est celle-là que j'entendrai, c'est beau. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme, comme question, quoi. Peut-être les phrases les plus célèbres de Saint-Jean de la Croix. Et Saint-Paul, dans la première aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1-3, donc tout au début, il met les trois vertus théologales. Et alors, je crois qu'il met dans l'ordre foi, charité et espérance. La charité pour tous les gens, après tout, je peux vérifier. Et il met un substantif avec chacune des trois, ça c'est intéressant. Quel est le mot que vous accoleriez? Substantif, un nom, quoi, à la foi. Qu'est-ce qui est la caractéristique de la foi? Qu'est-ce qui est la caractéristique de la charité? Qu'est-ce qui est la caractéristique de l'espérance? Ça, c'est pas mal, parce que c'est déjà tout un petit traité de théologie. C'est première ligne, l'Épître aux Thessaloniciens. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu, le Père, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité et la constance de votre espérance. Donc la caractéristique de la foi, c'est que tu travailles. Ah ça, c'est très intéressant. Ergon tes pisteos. Est-ce que tu travailles ta foi? Plutôt que de réciter des formules comme ça, est-ce que de temps en temps tu viens buter sur ceci, que tu demandes qu'on t'explique cela parce que tu ne comprends pas, parce que ça mériterait d'être approfondi, est-ce que tu vas lire un bouquin sur ci ou sur ça ou je ne sais pas quoi, ou poser les questions qui te viennent? Les jeunes posent plein de questions, c'est assez sympa, la foi n'est pas habituée, il y a plein de trucs qu'ils ne comprennent pas, donc ça travaille là-dedans. Alors ça, c'est bon aussi. Quand ça travaille, c'est bon. Le travail de la foi. Une fois qu'il ne travaille pas, elle est déjà au placard, quoi. Mais comme un truc bien rangé. Je sais dire mon credo par cœur. La charité, la caractéristique de la charité, c'est que le soir, tu es fatigué, tu es crevé. La peine de la charité. Alors la maman de trois enfants petits, le soir, elle dit, ouh, ils viennent de se coucher. Bon, parce que vraiment, j'en pouvais plus, ils ont été extraordinaires, mais insupportables. Bon, voilà. Donc, la charité, bah, quand on dit de quelqu'un, il ne ménage pas sa peine. C'est vraiment, j'étais très touché, parce que quand j'ai eu le problème, j'étais malade, tout ça. Franchement, il n'a pas ménagé sa peine, il venait me voir tout le temps, il s'occupait de ceci, il s'occupait de cela, etc. Alors là, c'est beau. Quoi. Il s'est donné de la peine pour moi, ça prouve qu'il m'aime. La caractéristique de la charité, c'est que tu te donnes de la peine. La fatigue. Et la caractéristique de l'espérance, c'est qu'elle tient bon, il faut en monnaie. Ce sont des vérités qui me dépassent, ça c'est sûr. Mais moi, je dois rester hypo dessous, et je reste. Et je sais que je ne comprends pas ce que je dis, je sais que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura après ma mort et dans le paradis, je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je sais que tout ça c'est vrai, et à cet endroit-là, il y a cette espérance de la vie éternelle, je reste. Et donc aujourd'hui, il y a des tribulations peut-être dans ma vie, et ben voilà, je vais avoir à les vivre, parce que j'ai un grand, grand, grand rendez-vous, voilà, et je veux attendre ce grand rendez-vous avec constance, avec persévérance, etc., etc. Alors voilà, je vous dis ça pour vous situer les deux références majeures de saint Paul à propos du titre de ce livre, ça dans Romains 5, 5 et 1 Thessaloniciens 1, 3, qui en soi d'ailleurs est, à mon avis, le meilleur petit traité de la vie théologale. La caractéristique de la foi, la caractéristique de la charité, la caractéristique de l'espérance. Alors, l'espérance ne nous déçoit pas. Vous voyez qu'arriver à dire ça, c'est déjà un acte de foi, quoi. Je suis face à des tribulations, dit-il. Et je sais bien que si j'arrive à les vivre, ça va me garder debout. C'est là, pour moi, j'arriverai à rester là-dessus. Et donc, ça va me fortifier, une vertu éprouvée. Et c'est ça qui va me faire dire, qui va fortifier mon espérance et qui dit, bon, un jour, ça s'arrêtera. Et quand ça s'arrêtera, je me trouverai à la porte d'entrée du royaume. Et là, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que l'espérance ne déçoit pas. L'amour de Dieu a été répandu sur terre, même dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tout cet amour nous a été offert par le Christ, qui est mort, etc., etc. Donc, je sais que cet amour offert est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait, et que ça, je peux y compter comme sur quelque chose de tout à fait solide, et qu'aujourd'hui et demain, ça tient et ça tiendra. Par conséquent, j'avance. Les circonstances sont-elles favorables? Bon, pas toujours. Hein. Est-ce que parfois, il y a des épreuves? Oui, il y a des très grandes épreuves. Et au fond... est-ce que le monde va bien? Oui, vachement bien avec la guerre en Ukraine, la Russie et tout ça. Tout va très bien. Tout va très bien. Oui, tout va bien, tout ce que vous voudrez. Et alors, est-ce que tu vis ça dans ta foi? Oui. Avec une espérance qui tient bon, une espérance qui tient ferme. Est-ce que tu es capable de regarder paisiblement toutes ces déficiences d'ordre social et d'ordre politique dans ton pays, dans tes proches, etc., etc., en disant, je sais que je dois faire, je sais que je dois m'engager, je sais que je dois avancer. Dans ce petit document, donc je ne sais pas, tout le monde l'avait certainement lu, je vais faire comme si c'était le cas, mais de toute façon, c'est très facile hein, comme texte. On nous dit les bornes essentielles. Donc, premièrement, on doit être des artisans de paix. Alors, les artisans de paix, ceux-là sont appelés fils de Dieu. Et je vous pose une petite question, un peu impertinente. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont à la messe. Et juste avant la communion, c'est le même au prêtre. Hein. Le prêtre dit une formule magnifique. Seigneur Jésus, toi qui nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés. Mais là, vachement beau de dire ça. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent où et quand Jésus a dit cela? Et pourquoi il a dit ça? Alors, donc on nous lit justement la communion, c'est formidable. Parce qu'après, je vais ressortir après la communion. Et donc, il va falloir que j'essaye d'être un artisan de paix. Bon, souvent, les prêtres, ils le disent de manière sucrée. Seigneur Jésus, toi qui nous as dit, je vous laisse, là, que je vous donne. Après, moi, ça n'a rien de sucré, c'est le contraire. Mes amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous laisse la paix à faire dans le monde. Ben, bon courage. Hein. Mais venez, venez, venez communier. Je vous donne la paix. C'est-à-dire que vous allez recevoir dans la communion la force, le prince de la paix, la force suffisante pour ensuite essayer d'arranger les trucs, être des artisans de paix, etc. Donc quand tout le monde a entendu ça comme du ronron, Seigneur Jésus, donc vous allez, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, tout sucré, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le passage, peut-être qu'il vaut mieux que je le dise. Hein. Dans Jean 14, vous avez trois questions. La question de Thomas, tout le monde la connaît, montre-nous le chemin. Thomas, c'est le bon le chemin. Le premier, quand Jésus a été verrouillé parce qu'il avait peur des Juifs, lui, il était dehors, il était dans les rues, il n'avait pas la trouille. C'est pour ça qu'il est furieux quand il rentre et que les autres le rencontrent. Là aussi, un discours sucré, on l'a vu, j'ai dit, c'est sûr, etc. En plus, il perd la ciboule. Écoutez, non, tant que j'aurais pas mis les mains, etc., stop, quoi. Bon, moi, je suis allé dehors et j'ai vu qu'ils l'avaient crucifié et que tout le monde s'en fout et qu'ils ont tout oublié. C'est l'homme des chemins, il n'a pas peur, c'est un homme qui n'a pas peur. D'ailleurs, la première fois qu'il parle, dans Jean 11, les apôtres disent à Jésus, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem parce qu'il va t'en cuire, il y a des gens qui veulent du mal. Ça, c'est la première remarque de Saint Thomas. Allons avec lui et mourons s'il le faut.
Tous les gens qui me disent « Ah, c'est mon père, moi je suis comme ça, Thomas, hein. Ça, que j'ai pas les preuves, ça, vous êtes comme ça, Thomas, ben, venez, je vais vous montrer dans l'évangile. » Alors je les amène à Jean 11, et je dis « Voyez la même phrase de saint Thomas, allons avec lui, mourons avec lui, là, c'est évident, je vous reconnais, ça. Je vous admire pour votre courage, continuez bien avec saint Thomas. »
Donc, on voit cela, donc, ce chien. La seconde, c'est Philippe. Donc, elle est connue aussi, hein. « Montre-nous le Père. » J'ai dit, mais si, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, il n'a pas compris. Celui qui me voit, il voit le Père. La troisième question, personne ne la connaît. C'est une question posée par Jude. Bon, celui-là, sur eux, on ne connaît pas beaucoup. Alors, il a mangé du sucre. Parce que Jésus vient de lui dire, si vous gardez ma parole, et ben, mon Père viendra, et puis nous entrerons chez vous, et nous établirons notre table chez vous, et nous partagerons notre repas avec vous. Alors, Jude, il dit, oh là là, là, là c'est beau et c'est formidable. Et puis, comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et pas au monde?
Ce qui prouve que le pauvre Jude, il n'a rien compris non plus.
Alors, on devine la déception de Jésus. Mon pauvre Jude, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous donner à vous des friandises. C'est pour qu'ensuite vous soyez des missionnaires. Tu veux que je te dise la vérité? Eh bien, la mission que je vous laisse, c'est que je vous laisse la paix à faire dans le monde. Un bon courage, mon coco. Mais n'ayez pas peur. Je vous donne ma paix. Donc, vous allez avoir une mission impossible, mais je vous donne la force suffisante pour accomplir cette mission. Donc, en fait, ces questions sont assez naïves. Montre-nous le chemin, montre-nous le Père. Elles déçoivent Jésus. Moi, je m'en fiche que les questions soient décevantes parce que les réponses sont en or. C'est les réponses qui m'intéressent. Et donc, quand il répond ça, alors là, on voit que c'est une mission infinie. Et de fait, c'est quand même très judicieux que l'Église ait mis cette phrase juste avant la communion. Et vous voyez comme elle va bien dans la position politique. Alors, la politique, c'est pas très paisible. Je vais vous dire tout de suite. Donc, il va pas y avoir que des compliments entre les candidats les uns les autres, ni même avec vous et vos copains qui votent différemment et tout ça. Enfin, ça va pas forcément se passer très, très, très bien, quoi. En fait, on a l'expérience. Alors, je vous donne une mission. Je vous laisse la paix à faire dans ce pays, dans le monde, etc. Mais je vous donne ma paix. C'est quand même très beau, c'est que c'est le paragraphe number one. Ouais. Nous avons ce choix majeur et fondamental à faire de vivre en paix et comment moi, je vais être un artisan de paix. Puisqu'il m'a laissé la paix à faire dans le monde, ça va être sport. Comment je vais essayer de m'y prendre? Après, le respect inconditionnel de toute vie humaine. Ici, il met le doigt quand même sur... On fait des progrès scientifiques extraordinaires, on fait des opérations et encore des post-opérations et des sur-opérations pour prolonger quelqu'un 15 jours, alors que sa vie arrive au terme. Foutez-moi la paix, laissez-moi... Oh non, on va encore tenter ça. Et qu'est-ce que ça va l'avancer de vivre 15 jours de plus? Et d'un autre côté, on met l'enfant à mort dans le sein de sa maman, etc. Donc il y a un acharnement thérapeutique d'un certain côté, ils le disent. J'aime pas l'expression acharnement thérapeutique, moi. Je préfère utiliser soins disproportionnés. Parce que j'aime bien l'acharnement des médecins. C'est parce qu'ils sont acharnés qu'ils ont trouvé des trucs nouveaux, donc on en est les bénéficiaires. Donc moi j'aime cette énergie des médecins et des chercheurs, elle me plaît. Mais des soins disproportionnés, non, non. Et on voit ça souvent. Si c'est l'heure de la mort, c'est l'heure de la mort. Vous savez que c'est arrivé à Jean-Paul II, donc... Il a eu une trachéotomie en février 2005 parce qu'il ne respirait plus, quoi. Et puis après, à la fin du mois de février ou mars, je ne sais plus, il fallait encore lui faire une opération à l'intérieur de gastrique pour ceci et pour cela. Il était nourri déjà par sonde. Et il a dit non, quoi. Laissez-moi mourir si c'est l'heure. À quoi ça sert de me prolonger encore deux semaines? Donc, évidemment. L'empêcher de mourir par étouffement, ça c'est quand même un beau service que la chirurgie pouvait lui rendre. C'est proportionné ça. Mais 10, proportionné, non. Et donc ici, ils mettent cela en regard et c'est intéressant comme une question. Bien sûr que je suis pour le progrès de la science. Enfin, je ne suis pas un idolâtre de la science non plus, quoi. Elle est faite pour servir l'homme. Ensuite, donc, le regard sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce sont trois mots majeurs, très, très, très importants. Moi, je pense que le troisième est le cadeau des deux premiers. Si les gens sont vraiment libres,
et qui vivent en se considérant comme des égaux, en se regardant avec beaucoup d'intérêt mutuel, et sans faire des classes de supérieurs de ceci et de cela, va naître une fraternité. Je ne sais pas si vous savez, mais Adelphotes, fraternité, c'est une définition de l'Église dans la Bible. Pierre, il dit, dans 1 Pierre 5, je ne me rappelle plus exactement, il dit « L'Église est d'abord une fraternité ». J'étais surpris d'ailleurs que dans l'encyclique Tutti Fratelli, le pape François ne cite pas ce passage, parce que c'était vraiment un sujet merveilleux, quoi. Donc, et qu'est-ce qui doit circuler entre nous? La Philadelphia, c'est-à-dire l'amour des amis, quoi. Entre nous, c'est cet amour qui doit circuler. Tenez, le texte qui a été lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 12, tout le monde le connaît, hein. Les différents membres du corps, il ne faut pas qu'ils soient jaloux les uns des autres. La main ne va pas dire à la tête, j'ai pas besoin de toi. À ce moment-là, c'est la première fois que Paul utilise cette comparaison. La tête, ce n'est pas encore le Christ. C'est plus tard dans l'Épître aux Éphésiens et aux Philippiens qu'il dira, mais dans ce corps, la tête, c'est le Christ. Une seule tête, une seule chair, un seul chef qui est le Christ. Donc on voit comment sa réflexion a progressé. C'est assez sympa. C'est dur, il continue de progresser tout le temps. Au 19e siècle, ça intéresse de l'enfant Jésus. Mais moi, je voulais être missionnaire, puis je voulais être martyr, puis je voulais être tous les soirs de martyr, puis je voulais être prêtre, puis je voulais être ceci, puis je voulais être cela. Alors qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi? Et tout d'un coup, elle lit un Corinthiens 12, et elle dit, ah ben voilà, j'ai compris. À l'intérieur de ce corps, il y a un cœur, et ce cœur permet aux jambes de marcher, aux bras de bouger, à la tête de ceci, etc. Et ainsi, dans le cœur de l'Église, c'est un chant, c'est un chant. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, alors je serai tout. Elle avait raison de vouloir être tout, et elle a trouvé sa place. Donc ça, c'est... Et moi, je vois que, par exemple, un mariage, il y a 1 Corinthiens 13, le passage de juste après, l'amour prend patience, l'amour supporte tout, l'amour ceci, l'amour cela, etc. Souvent, à des fiancés, je leur dis, bah, mettez votre prénom à la place pour voir si c'est vrai. C'est un petit exercice qui est intéressant. Mais ça vient juste après 1 Corinthiens 12, juste après la multiplicité des membres du corps. Le fait que ça ne se passe pas toujours bien, parce que dans l'Église, on se bagarre. Donc la main, il dit à la tête, fous-moi la paix, etc. Bon, donc, il y a des bagarres entre Marthe et Marie, il y a des bagarres à l'intérieur de l'Église. Mais qu'est-ce qui est très important? Eh bien, que la charité soit comme le sang qui coule aux artères. 1 Corinthiens 13, voyez, on connaît tout ça. Dans 1 Corinthiens 11, c'est l'épître du Jésus. C'est le corps eucharistique de Jésus. 1 Corinthiens 12, c'est le corps de l'Église. On connaît les deux textes, on ne peut pas le rapprochement. 1 Corinthiens 13, c'est le sang qui coule dans les artères avec la charité, la charité, la charité, l'hymne à la charité, si beau qu'on connaît. Puis après, il reprend la comparaison du corps de l'Église. Vous comprenez comment vous devez vous entendre les uns avec les autres? Et 1 Corinthiens 15, et bien notre perspective, c'est la résurrection, le corps ressuscité de Jésus. Et alors là, il y va vraiment carré, quoi, presque en béton. Quoi. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que Jésus, il est mort, et 3 jours après, il est ressuscité. Cette formule massive se trouve au Corinthiens, à propos de l'Eucharistie. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le corps de Jésus, l'Eucharistie, et 1 Corinthiens 15, à savoir que Jésus est ressuscité le matin de Pâques. Et tout ça, c'est une très très belle séquence sur le corps, avec notre place à l'intérieur de l'Église. Eh bien, l'Église est un corps, mais on dit aussi un corps social. Et tout ce passage si beau, pour nous les chrétiens, de 1 Corinthiens 15 à 1 Corinthiens, de 1 Corinthiens 11 à 1 Corinthiens 15, avec l'Eucharistie, avec le sang qui circule, avec les petites bagarres qui existent entre nous, avec la perspective de la résurrection, si on le transportait, et qu'en relisant l'ensemble de ce passage, on voit comment ça peut être utile dans la vie sociale. Je ne vais pas faire qu'il n'y aura pas de bagarre dans la vie sociale, parce qu'il y en aura toujours, on n'est pas d'accord avec lui et avec ça, on veut le contraire et tout et tout. Pourtant, nous vivons ensemble. Pourtant, l'air qui circule, et la pluie, elle est pour tout le monde, et la nourriture aussi, et ceci et cela, etc. Enfin, pas forcément pour tout le monde, malheureusement. Et donc, vivre avec une perspective chrétienne, ce qui est notre engagement à nous, ce n'est pas forcément mauvais. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il ne va pas nous dire, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites de la politique.
Sur quoi, d'ailleurs, il faut peut-être aussi nous positionner clairement.
Attention, le pouvoir peut devenir une idole. Donc, il peut y avoir une idolâtrie du pouvoir. Donc, il faut se méfier. Il faut savoir mettre des bornes. Dans l'Ancien Testament, c'était jumelé le politique et le religieux. Le roi David, il avait été choisi par Dieu, il avait l'onction de Dieu, donc il était le roi, il avait tous les pouvoirs. Dans le Nouveau Testament, ça change. Et pour les chrétiens aussi. Quelle est l'attitude du chrétien face au pouvoir? J'ai des exemples chez Jésus lui-même. Hein. Intéressant, par exemple, Jean 18, la conversation avec Ponce Pilate. Ça, c'est fort. Hein. Donc, Ponce Pilate lui pose une question, et Jésus ne répondit rien. Ah, il n'est pas très. Ponce Pilate pose une deuxième question, Jésus répond à la première. Ponce Pilate pose une troisième question, Jésus répond à la seconde. Et puis après, il sort, il est complètement groggy, mais il n'ose même pas écouter la réponse. Donc, c'est intéressant parce que lui, c'est le chef de la puissance occupante. Tandis que Jésus, c'est le condamné de la puissance occupée. Et c'est lui qui mène la discussion. On voit qu'il est absolument maître de cette attitude-là. Il n'est absolument pas impressionné par le pouvoir. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de ceci et de cela, de te couper la tête ou de vie et de mort? Et Jésus dit, bah, en fait, je m'en fous, tu vois. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si ne t'avais été donné l'euro. Donc, le maître de cette discussion, on voit que le pauvre Ponce Pilate, quand il sort, il est cas au poids. Et après, Hérode, qui veut le faire venir devant chez lui. Alors déjà dans Luc 13, on voyait qu'Hérode s'intéressait à Jésus, puis à la fin, il veut le faire venir. Et donc c'est dans l'évangile de Saint-Luc qu'il va devant Hérode et Saint-Pierre. Jésus, il a fait plein de miracles. Fais-moi un petit miracle gentil, avec un peu de messieurs et les dames qui sont là autour de moi. Alors là, Jésus ne dit pas un mot. Il ne bouge pas, il n'y a rien, 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 rien. Alors ne pas nous laisser prendre à la mondanité du politique, à la démonstration du politique, à la grosse affirmation du pouvoir, etc., etc. Mais vraiment, pour nous, rester tranquille. Les apôtres, ils ont cette liberté. Devant le Sanhédrin, devant les responsables. Même, au fond, si on dit que à Rome, il y a eu une confrontation avec l'empereur, Luc c'est Néron qui a fait mourir Pierre, parce que les chrétiens et tout, on voit que on a une responsabilité, on respecte, mais on idolâtre en aucune façon celui qui a le pouvoir. Les premiers chrétiens sont beaucoup persécutés. Après, il y a l'ère constantinienne, c'est-à-dire, voilà, l'empereur s'est fait chrétien, il veut être un disciple de Jésus. Alors, voilà, évidemment, les choses changent. C'est heureux, c'est paisible, c'est beau, mais ça ne dure pas. Parce que finalement, le pouvoir, ça change de main. Les barbares ont tout envahi. Donc ça redevient quelque chose de difficile. Saint Augustin, il est là au milieu de tout ça et il dit, mais il a une conception assez pessimiste de l'autorité. En fait, grosso modo, de l'exercice du pouvoir et de l'autorité avec son pouvoir, pour lui, c'est une conséquence du péché originel. Il devrait à peine en avoir besoin si les hommes vivaient dans la sérénité, dans l'obéissance à Dieu. Enfin, il a du mal à voir le positif de la politique, nous aussi parfois. Pas toujours très très positif, mais enfin, c'est quand même intéressant. Et puis après, surtout en fait avec Ignace de Loyola, Saint-Robert de l'Armand, enfin toute la grande école jésuite, on prône une claire autonomie du pouvoir. Voilà. Il prend ses décisions et tout et tout. Et du coup, ce qui est notre position aujourd'hui, s'il y en a parmi vous qui sont engagés dans la politique, ben c'est premièrement, je me convertis pour aimer Jésus davantage. Deuxièmement, je fais tout ce que je peux pour le bien des autres et pour le bien de la société. Mais ce qui est véritablement premier pour moi, c'est d'être un véritable disciple de Jésus, un témoin de Jésus. C'est ça qu'il me demandait. Vous allez recevoir une force, donc cette force, il faut que je mette au profit quand même de la société. J'ai des choses à faire. Vous allez recevoir une force, simple du Saint-Esprit, qui vient rassurer. Vous serez mes témoins, bien sûr, pour annoncer l'Évangile, mais mieux aussi, pour faire avancer la cité, pour la faire progresser. Et à partir de là, donc, je me méfie des excès de pouvoir que je connais, mais je sais qu'il faut que je m'engage. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'assez important. Et parfois, quand un chrétien commence à monter un peu sur la rambarde à côté en disant « Oh là là !» toutes ces marouilles et tout ça, faut pas que je me trompe, faut pas que j'y aille. Je ne sais pas si c'est vraiment dans la logique de l'incarnation. Nous vivons dans cette société telle qu'elle est. Il faut se salir les mains, ben, peut-être. Donc si je mets bien les choses dans cet ordre, premièrement, ma conversion. Deuxièmement, le pouvoir comme un service, en étant bien averti des dangers. Et troisièmement, le fait que oui, il faut que je m'engage. Et donc c'est à cela, c'est pour ça que le chrétien vote, il a une visée politique, il sait ce qu'il veut et ce qu'il souhaite pour la communauté. Et donc, alors ça c'est un texte 2022, c'est sûr que dans un texte 1950, il n'y aurait pas l'écologie authentiquement intégrale. Alors attention, écologie intégrale, ils ont rajouté authentiquement, hein, parce qu'il y a tellement de baratin là-dedans, une écologie intégrale, c'est recevoir la création comme elle a été faite par Dieu, avec l'homme comme le roi de la création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et à partir de duquel tout le reste va s'éclairer. Et puis ensuite, le passage sur le rapport avec les autres religions, et la France n'est pas une île. Et ensuite, notre devoir de transmettre. Tradition, transmettre tout ceci que j'ai reçu. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Je ne sais pas si vous connaissez les deux mots hébreux de la Massora et Kabbal. Les Massorettes, c'est ceux qui nous ont transmis le texte de David. Donc, il faut que je les transmette. Et la Kabbal, c'est recevoir tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'on m'a donné. Alors, ça. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. J'ai une expérience très juive de Paul, mais qui est aussi profondément chrétienne, du coup. Et donc, moi, est-ce que j'ai bien reçu ce qu'on m'a donné? Est-ce que je la connais, ma Bible? Est-ce que je la connais, la révélation de la parole de Dieu? Est-ce que c'est ma chair et mon sang et ma pensée, etc., etc.? Est-ce que, voilà, cette cabale, je l'ai faite, quoi. C'est-à-dire, or, cabale, maintenant, c'est devenu cabalistique, etc. Bon, ça a été abîmé comme mot, mais c'est un mot très, très beau. L'art de recevoir ce trésor. Et puis après, on saura, ça peut dire le transfert. Alors, le plus intéressant, à mon avis, dans ces analyses, moi j'ai vu sortir ces textes, l'élection de 2007, l'élection de 2012, de 2017, etc. Donc c'est bien. Et les angles d'attaque m'intéressent parce qu'ils bougent un petit peu. Mais là, ce que je trouve nouveau et sympa, c'est les questions qu'ils posent. Et donc, à la fin de ces 6 parties ou 7, je ne sais plus, vous avez des questions. Et alors, ces questions sont faites pour nous, donc sur le choix de la paix. Alors, voici les 3 questions. Alors, je ne sais pas si tout le monde a ça ou si vous pourriez vous le prendre pour en discuter entre vous. Enfin, mais c'est un texte très simple, hein, minuscule, de toutes petites pages, etc. Et voici les axes de réflexion que nous proposons catholiques français, rien d'exhaustif. Vous pouvez lire aussi les textes précédents qui, sans doute, n'ont pas perdu leur force. D'ailleurs, à la fin, ils font une très longue et belle citation du cardinal 23 en disant en 2011, il avait écrit ça, quoi, en vue des élections de 2012. Comment nous sentons-nous responsables de la paix dans notre société? Alors, tendance des missionnaires générales, c'est de toute façon on n'y peut rien, c'est une société qui est dans le grand tumulte. Tu peux ce que tu peux. Quoi. Je ne te demande pas si tu peux beaucoup ou pas beaucoup. Je te dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que de ce point de vue-là, tu sais que tu auras en réponse de ton bon Dieu? Comment pouvons-nous contribuer à un débat à la fois libre et respectueux? Et c'est quoi, en fait, l'unité du bien commun à promouvoir? Parce que souvent, on utilise des grands mots. Et alors, avec les grands mots, tout le monde est d'accord, mais quand les gens, ils n'ont rien de concret dans la tête derrière, c'est pas très éclairant, quoi. Ça ne leur fait pas faire. Alors, le respect inconditionnel de la vie humaine, c'est certainement un des points d'écart les plus douloureux. À cause de l'avortement, vous passez 12 à 14 semaines, mais en fait, maintenant, on sait que quelqu'un, quasiment jusqu'au dernier moment, il peut trouver une excuse pour le faire aussi. On sait aussi que quand l'enfant est né et qu'il y a des grands problèmes, il y a aussi des infanticides. C'est absolument interdit par la loi. En fait, on voit bien ce qui se passe. Donc c'est un truc qui a pris une ampleur ultra dramatique. sur laquelle règne un grand silence, en fait. Et en même temps, parfois, dit-il, on s'étonne d'un véritable acharnement thérapeutique. C'est-à-dire comme s'il y avait un refus de la mort et que la mort était la principale de toutes les horreurs. Ben, laissez-moi mourir tranquille si c'est mon heure. Quoi. Je parle pas des martyrs comme Saint Ignace d'Antioche. J'ai dit, je vais me faire bouffer par les lions, surtout laissez-moi être mangé parce que j'ai envie d'être entre leurs dents. Non, je parle de celui qui a déjà subi une ou deux opérations, on lui a bien servi sa vie, et il est arrivé au bout et il n'est pas guérissable. Si je suis pas guérissable, on va se mourir en paix. Parce que je vais partir à un moment de la grande rencontre qui arrive à une heure que je n'ai pas commandée, etc. Donc ça, c'est certainement un des points les plus difficiles et brûlants avec nous. Vous avez entendu ces trois questions. Le chapitre suivant, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ces trois mots de liberté, égalité, fraternité de l'intérieur de notre foi. Il y a peut-être un temps, je crois. Oui, si, c'était juste après le conclave de 2013, au fait, le 9e anniversaire de l'élection de François. J'étais en train de préparer pendant le conclave. La valeur chrétienne de ces trois mots, le développement chrétien de ces trois mots et de leur logique, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Leur place dans la Bible. Dieu sait si la liberté, c'est la vérité qui vous rendra libre, et comme on veut vraiment que nous acquérions notre liberté, le fait que nous avons le même Père et qu'il nous a tous créés égaux, et l'importance de cet objectif, y compris à l'intérieur de l'Église, de la fraternité. Moi, je pense qu'elle est la conséquence. Si vraiment je suis entièrement libre, et si j'ai le sentiment que les autres à côté de moi sont complètement égaux, je vais prendre un exemple. En 2013, j'ai eu un infarctus. Et après, quand je suis rentré, des semaines d'hôpital et tout, avec recousu dans plein de sens, il y avait 2-3 mois avec tous les gens qui avaient eu des attaques cardiaques. Il y avait un camionneur, il y avait un avocat, il y avait un commerçant, il y avait bon, etc. Et nous avions exercé notre profession, quoi. Bon. Et là-dessus, nous était arrivé cette difficulté qu'on avait abîmé notre cœur et qu'on avait fait. Donc, on était tous égaux, quoi. Non, en fait, pas du point de vue homme-femme. Il y avait 28 bons hommes et une femme seulement. Et la parité, c'est où ici? Mais ce qui était extraordinaire, c'est le rapport fraternel qui existait entre nous. Parce qu'un archevêque au milieu d'un camionneur, au milieu d'un commerçant, au milieu d'un tenancier de bistrot, le chef de toute entreprise qui lui était vachement angoissé, parce que s'il y a un chaos pendant 2 mois, son entreprise va changer de moi. J'avais des vicaires généraux qui traitaient les choses très bien. Je leur demandais une petite heure de conversation par semaine, ça suffisait. Et je lui ai dit, la fraternité, on voit ce que c'est, quoi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ces trois mots et la manière de les vivre et la valeur chrétienne qu'elles ont pour nous les chrétiens. Ici, la première question est belle. Pas de surestimation et pas de sous-estimation du politique. La politique fascine, les gens ne pensent plus qu'à ça, ils ne parlent plus que ça parce que ça fascine. Non, pas de surestimation. Et puis après, c'est tous des pourris. Charles Péguy, il dit, tous les hommes politiques pensent de la politique ce que nous en pensons nous-mêmes. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Donc ça, c'est Péguy. Non, je ne peux pas dire que ça vaut rien. Parce que c'est le bien de mes enfants, c'est le bien de ma société après-demain, c'est quelque chose d'assez important. Donc, pas de sous-estimation. Ouais, on peut dénoncer les dangers, les excès, etc. etc. Moi, j'aime bien ça. Et est-ce qu'on peut partager sur ce sujet ce qu'il nous propose de faire? Et est-ce que la liberté ne va pas contre la fraternité? Je trouve que c'est une question un peu moins intéressante. Parce que pour moi, elle en est même une conséquence. Si je me comporte avec toute ma liberté et que je vois les autres aussi, c'est très intéressant les rencontres qu'on va faire. Mais ça va créer un lien fraternel. Tu sais, par exemple, moi je suis un coureur, marathonien et tout ça, etc. Et donc, rien à voir avec Archevêque de Lyon, évidemment. Et ça crée des liens fraternels fantastiques. Dans le fait qu'on soit en train de courir ou en train de se cibler de soleil, il y a une amitié qui vient du sport, une amitié qui vient de la balade en montagne, une amitié qui vient d'un repas partagé, une fraternité très très simple. Et puis, après, alors ça c'est un assez gros conflit, comment le respect de la loi, ils ont mis une majuscule à loi, le respect de la loi trouve-t-il sa place dans la dynamique de la vie chrétienne? Vous voyez la colère de Jésus parce que tout le temps, ah mais merde, vous avez transformé la Torah en un paquet de règlements, et avec tous ces paquets de règlements qui sont là, vous êtes complètement ficelé, vous n'avez plus aucune liberté, quoi. Alors, donc, vous dites, si j'ai fait ci, si j'ai fait ça, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. C'est les lectures dans lesquelles nous sommes maintenant, vous savez, dans la suite de Matthieu 5, il donne sa nouvelle Torah. Sa nouvelle Torah et sa nouvelle loi à lui, ce sont les béatitudes. Donc ce que je vous propose, c'est un chemin de bonheur. Il va être très exigeant. Donc, j'ai rien envie de changer ni d'abolir. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. C'est ce qu'on a lu au début de cette semaine. Le problème, c'est qu'accomplir, personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça change, mais que c'est la même chose. c'est la même chose, et en même temps, ça change. Le plus joli, c'est un joli texte de Benoît XVI quand il y a eu le synode de 2008 sur la parole de Dieu. Après, il a fait un très beau texte, comme souvent le pape fait un an ou deux après le synode, qui s'appelle Verbum Domini. Au numéro 39-40, il s'attaque à ce verbe accomplir. Et Benoît XVI, qui est évidemment une intelligence un peu lente, escargot, pas très délié, on le voit avec toute sa finesse et tout, il patine devant le mot. Et il n'arrive pas bien à le définir, parce que ça reste très mystérieux. En fait, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Tu nous donnes la loi, tu ne veux rien abolir de ce qui était avant, et en même temps, tu veux tout transformer de l'intérieur pour l'amener à un accomplissement. Explique-nous bien. Et juste après ce verset-là, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, avec la difficulté. Il donne 6 exemples. Le premier sur le meurtre, c'est vous avez appris, il a dit tu ne tueras pas. Mais enfin, quand tu dis celui-là, quel crétin, s'il n'était pas là, si on pouvait être débarrassé de ce bonhomme-là, tu l'as déjà un peu tué dans ta tête, quoi. Et la même chose avec l'adultère, la même chose avec ceci, avec cela, ce sont les lectures que nous avons ce jour dernier. Donc, Jésus est perpétuellement un éducateur de notre rapport à la loi et à la parole. J'avance pour ne pas trop vous fatiguer. Donc, après, vous avez. Donc, ce sont ces questions qui sont à retenir. Les développements sont tout petits, tout clairs, tout simples. Et après, le rapport avec les autres religions. C'est quoi la liberté religieuse? Parfois, on peut instrumentaliser les religions. Et ça, c'est bon. Comment notre foi unique, au Dieu unique, nous ouvre-t-elle à la conviction que l'humanité est unique? Donc, on a une destinée commune. Et à la limite, dans le « je crois en un seul Dieu », puisque nous sommes tous ses enfants, ah, ça a des conséquences considérables sur ma solidarité avec eux. Ensuite, sur l'écologie, bon, ben voilà, ça n'existait pas il y a 15 et 20 ans, et là, maintenant, ça existe. Transformation écologique. Vous êtes prêts à faire quoi? Tiens, c'est une bonne question. Moi, je suis prêt à faire quoi? Après, qu'est-ce que veut dire quand maintenant on dit écologie intégrale? Écologie intégrale, c'est un correctif. Ah, vous vous occupez tout le temps des petites plantes vertes, et puis des arbres, des forêts, et puis de la pollution des mers, mais peut-être que l'homme aussi, c'est une création de Dieu, quoi. Et donc, une écologie intégrale, c'est un certain rapport sur l'homme. Et pourquoi on arrive à des discours complètement... Il ne faut pas toucher une feuille d'arbre et qu'on peut tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Mais attendez, là il y a un problème. Quoi. Expliquez-vous un petit peu sur ce que veut dire intégral. Donc, il ne faut pas faire de mensonges. Quoi. Accepter les souffrances comme elles sont et comme elles viennent et les vivre avec plutôt que tomber sur le jugement. Alors vous êtes prêts à quoi sur ce sujet? Après donc, dans le fait qu'il ne faut pas être trop franco-français, donc aujourd'hui, c'est l'heure de l'Europe. Alors là, ils ont un adjectif qui est assez rigolo. Comment contribuer à une construction européenne plus ajustée? Ah bon, alors on n'est pas une seule nation. La différence des cultures entre l'Espagne et l'Allemagne et l'Angleterre, ben quand même, c'est vrai. Donc, construction, oui. Et du commun, oui. Et ajustée, pas toujours. Il ne suffit pas de faire des lois. Ça veut dire quoi? Alors après, un ajusté encore plus dur. Quelle part pouvons-nous prendre à un accueil ajusté des personnes migrantes? ne disent pas des migrants, hein, des personnes migrantes. Donc là, il y a un fait. Il y a... Tu veux, l'enseignement du pape sur ce sujet, c'est deux choses. Tout l'enseignement de Populorum Progressio. Est-ce que vous travaillez vraiment au développement des peuples chez eux? Parce que si vous ne travaillez pas à Populorum Progressio, au progrès des peuples chez eux, ben, ils vont tous partir de chez eux et déferler chez vous, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'étais 4 ans à Madagascar, par exemple. Alors, la France a construit un hôpital à faire en dessous. Donc c'est une entreprise française qui est venu le faire, donc ça a été payé par l'État français, mais c'était quand même une entreprise française qui l'a vécu. Et puis une fois qu'il a été là, ben, il n'a jamais servi à rien. Parce qu'il y avait peu d'électricité, on ne s'est pas occupé de la suite. Donc on avait fait un hôpital. C'est pas Populorum Progressio, ça. Populorum Progressio, c'est quand tu permets à un peuple de progresser lui-même et d'avoir des moyens qui vont améliorer sa vie. Tandis que quand tu fais plaisir à toi, à la France, de construire un très bel hôpital en favorisant des entreprises françaises, et puis une fois qu'il est là-bas, je me rappelle, l'hôpital de Tananarive, il dit, est-ce que vous pouvez venir nous voir à l'aumônerie? Alors j'ai dit, bah, bien sûr, oui. C'est où? Il dit, c'est au troisième étage, juste en sortant de l'ascenseur. Bon, je m'attendais à sortir de l'ascenseur, puis voir une porte. Et je vais pour prendre l'ascenseur. Ah, non, l'ascenseur, il n'a jamais marché. Donc je monte à pied. Effectivement, tout l'espace devant l'ascenseur, il était libre, puisque ça n'avait jamais marché. Ils avaient mis l'aumônerie, là. Ça, c'est encore un bel hôpital construit par nous. C'est quoi Populorum Progressio? Et alors après, il y a aussi le fait que les gens, ils viennent parce qu'on va là où on a à manger, parce qu'on va là où nos enfants pourront vivre et survivre. Alors on va à Lampedusa. Une fois, j'ai interrogé le cardinal d'Agrigente en lui disant comment ça se fait que les gens... Lampedusa, vous savez, c'est juste à côté de la Tunisie, pas du tout près de l'Italie. Donc c'est très largement au sud de la Sicile, mais quasiment en face de la Tunisie. Et vous pouvez savoir pourquoi ils ont été si bien accueillis. Parce qu'à Lampedusa, tout le monde est pauvre. Et donc lui, il y allait souvent, c'était un des premiers voyages du pape, c'est assez intéressant aussi. Difficile, le maintien des deux discours. Et le dernier, je ne demande pas si j'étais trop long, mais ça s'arrête. Hein. C'est transmettre. Donc transmettre, c'est vraiment notre devoir. Alors, là, on les sent paniquer par la dette. Moi, c'est vrai que j'y connais rien du tout. Et qui paraît que la dette est faramineuse et écrasante, et que ça va peser sur les générations d'après. Moi, j'entends tellement parler de ce machin-là que je pense que jamais personne ne le remboursera. Mais enfin, j'y connais rien. Donc, ça m'a fait drôle. Ça. Bon. Accumulation de déficit qui met en péril l'avenir des générations, et des générations à venir. Bon, alors, je me suis dit, tiens, vrai, je demande renseignement. Je vais avoir quelqu'un qui va m'expliquer par nous. Et puis. Le fond même de l'éducation, ça aussi c'est quelque chose de très très important pour nous. Qu'est-ce que je transmets à la génération qui vient après? Voilà, un petit regard politique tout petit sur un fond. Vous voyez, un fond politique qui nous est vraiment donné dans l'écriture, quoi. C'est-à-dire, je n'ai jamais fasciné par le pouvoir politique, Jésus devant Hérode, Ponce Pilate. Tu es averti sur ce sujet, tu sais que ce qui compte pour toi premièrement c'est d'être chrétien et que le plus grand service que tu peux y rendre dans la société c'est ta propre conversion. Tu vas garder une bonne distance sans jamais mépriser, dénoncer les erreurs, jamais mépriser, mais parfois garder de la distance et de la critique. Et enfin, tu vas te débrouiller pour t'engager. Je terminerai par la citation du cardinal 23 qui est assez jolie. Alors il avait dit « Nous devons soigneusement distinguer ce qui relève de la possibilité de conscience et ce qui relève d'un choix encore acceptable, même s'il ne correspond pas à nos convictions. Parce que alors, un bien même modeste peut être réalisé ou sauvegardé, en tout cas davantage que dans d'autres hypothèses. C'est pas se résigner au moindre mal, c'est essayer de promouvoir humblement le petit bien le meilleur possible. » Sans illusion, sans défaitisme. C'est ça notre réalisme de chrétien. Amen.